Ah oui, c'est marrant, ça parle tout seul. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être avec vous. Donc Fabienne est là. Tiens, tu peux te lever. C'est mon infirmière préférée. Donc on est lyonnais. En fait, on est grenoblois d'origine depuis de nombreuses années. On connaît votre église, ça fait 32 ans. Il y en a, vous étiez même pas nés, hein. Voilà, donc on a connu Yves et Marie-Thérèse en Afrique, parce qu'on a été en mission pendant 18 ans, entre autres en Centrafrique, au Tchad, au Congo. Et on est venu dans cette église, alors par épisode, hein, donc c'est pour ça qu'il y en a qui nous connaissent. Et on est toujours très heureux de revenir avec vous. Donc il y a 6 mois maintenant, on a déménagé de Grenoble à Lyon, comme on est très jeune, on a passé 60 ans. On s'est dit, voilà, une nouvelle tranche de vie. On change une page, on en clôture une, on en ouvre une autre. Et on travaille, pour être très court, hein, mais notre objectif actuellement sur la France, on n'est plus responsable d'une communauté locale. Je suis beaucoup itinérant, hein, pour l'enseignement, l'accompagnement d'églises, de jeunes ministères. Mais notre objectif surtout, c'est l'implantation d'églises en France. Et on est venu dans la région lyonnaise pour travailler avec des gens qui sont dans des jeunes églises naissante, et pour travailler à multiplier, je dis bien multiplier, de nouvelles églises. C'est un grand défi en France. Il y a peu de gens qui pensent qu'on peut ouvrir beaucoup d'églises en France. Alors moi, je me nourris de ça. Je crois que c'est vraiment une perspective, pas pour le plaisir d'ouvrir de nouvelles églises, hein, c'est pas pour faire du chiffre, mais on est actuellement à une église pour 30 000 habitants. Et vous, la Bretagne, vous n'êtes pas très gâtés, vous êtes encore moins. Hein. Vous êtes à une église pour 50 000 habitants à peu près. Et l'objectif, donc notre fédération fait partie d'un ensemble national qui s'appelle le CNEF, Conseil National des Évangéliques de France. Hein, ça regroupe à peu près 75% de tous les évangéliques. L'objectif du CNEF, c'est d'arriver à ce qu'on ait en France une église pour 10 000 habitants. Parce qu'on s'est rendu compte que quand il y a une église pour 10 000 habitants, on commence à être significatif et avoir un certain impact dans l'environnement dans lequel on est. Mais, ce qui est un mais, pour que nous passions de la moyenne actuelle de une église pour 30 000 à une église pour 10 000 habitants, il nous faut 120 ans. Alors moi, je trouve que c'est long. Je trouve que c'est très long. Hein. Et, parce que c'est vrai, on ouvre à peu près 30-35 églises par année nouvelles, évangéliques, hein, mais c'est trop peu. Il faudrait aller 3 fois plus vite pour qu'on puisse arriver à 1 pour 10 000 dans un temps raisonnable. Donc, on est dans cet objectif-là. Voilà, ce n'est pas mon thème ce matin, mais mon thème va aller plutôt sur la prière. La prière, arme puissante du peuple de Dieu. Allô ? Alors, vous avez remarqué, j'ai mis un point d'exclamation, parce que je suis sûr que si j'interroge chacun d'entre vous, vous en êtes convaincus. Hein, je ne vous apprends rien. Et puis, en même temps, j'ai mis des points d'interrogation. Est-ce que vraiment on le vit ? C'est ça notre problème, c'est qu'on sait plein de choses, hein. On apprend plein de choses, on écoute plein de choses, plein de messages, on lit notre Bible, j'espère, on lit des bouquins, on se nourrit de la parole de Dieu, mais il y a souvent un grand décalage. En fait, le décalage n'est pas énorme, il fait seulement 30 cm. C'est de là à là, du cerveau au cœur. Hein, je dis 30 cm, c'est à peu près la moyenne, mais c'est un chemin énorme souvent, et Dieu veut nous parler là-dessus. Voyez-vous, au début de cette année, je priais au passage de l'année, et je veux le dire avant d'aller plus loin, c'est que Dieu m'a donné un mot pour nous en France. Vous savez ce qu'on traverse, je parle du pays depuis un an et plus, hein, et on était encore en pleine période de grève, de manifestation là, au passage de l'année, et Dieu m'a dit un mot pour la France, espérance. On est dans une société qui déprime, de plus en plus désespérée, et je me permets de le dire, de plus en plus désespérante. Mais nous avons un message unique pour notre génération, ou plutôt pour nos générations. Amen. Amen. Et ce matin, si j'aimerais laisser ça dans votre cœur, avant toute chose, c'est que nous avons un Dieu d'espérance. Et il veut te donner une espérance, un avenir. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu ce matin. On a chanté, on a loué tout à l'heure. Hein. Mais tout le monde n'est peut-être pas en phase sur ces choses-là. Il y a peut-être des personnes qui sont dans des difficultés graves, qui sont peut-être venues chercher du secours, hein, qui crient à Dieu. J'aimerais te dire, Dieu est un Dieu d'espérance. qui veut te donner un message qui va te rendre la vie et l'espoir. Il te donne un avenir. Peut-être les hommes t'ont enterré, hein, peut-être le monde autour de toi t'a dit « il n'y a pas d'avenir pour toi ». Dieu te dit « il y a un avenir ». Il y a un plan meilleur. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et qu'il veut faire au travers de toi. C'est maintenant et c'est devant. Et quel que soit ce qui s'est passé avant, quel que soit le passé, Dieu est capable de retourner les choses. Parce que c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui change, qui transforme les circonstances. Tous ici, je pense, on peut le dire, on est passé par des vallées sombres. Parfois par des tunnels qui étaient longs, par des moments difficiles de notre vie. Mais quand on a Dieu dans la barque, quand on a Dieu dans notre vie, d'abord on traverse, on a la persévérance pour aller jusqu'au bout. Et puis à un moment, quand on sort, on voit qu'on vit quelque chose qui est une vie de résurrection. Parce que c'est un principe biblique du royaume de Dieu. Il n'y a pas de vie de résurrection sans la mort. Moi, j'aimerais bien ressusciter tout de suite. J'aimerais bien être enlevé, je ne sais pas quand ça se fera, hein. Il a fallu que Jésus passe par la mort pour vivre la résurrection. Et pour qu'ensuite le Saint-Esprit soit répandu pour qu'il y ait la Pentecôte. Il fallait d'abord Gethsémané, l'agonie, la croix, la souffrance, la douleur, la mort. Mais de la mort, la vie est sortie. Alléluia. Alors, je dis ça parce qu'on est, je pense qu'ici on est... peut-être 100% chrétien, on y croit tous, ou on n'est peut-être que 95%, il y a peut-être des gens nouveaux qui cherchent. Hein. Mais je dis, on dit tous amen ici, mais c'est dehors qu'il faut le dire. C'est demain matin au bureau, à l'usine, dans la rue, à l'école où t'emmènes tes enfants, ou à l'université là où tu étudies. C'est là qu'on doit avoir un message d'espérance et de vie. Amen. Et j'aimerais vous dire, la prière est une force que rien ne peut remplacer. C'est pour ça que j'ai intitulé la prière une arme pour le peuple de Dieu. Et je voudrais réellement qu'on puisse aller sur quelques points là-dessus ce matin. Et j'ai choisi, alors ça marche, Matthieu 17, c'est le chapitre, je situe juste le contexte, je lis les versets. Les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Et Jésus répondit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Dans le grec, c'est apistos, ça veut dire apistis, c'est-à-dire c'est absence de foi, le contraire de la foi. Hein, on a traduit en français, incrédulité, certaines de vos Bibles ont manque de foi. C'est la même chose. Et je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Et je l'ai mis entre parenthèses parce que dans certains manuscrits anciens, cette partie de verset existe, dans d'autres, elle n'y est pas. C'est pour ça que selon votre traduction de la Bible, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne, est présente ou absente selon que le traducteur a pris tel... Je vais y revenir après. Hein, ce qui est important là-dessus, voyez-vous, c'est le rôle... Je situe le contexte, hein, je reviens au début. Jésus est monté sur la montagne avec trois de ses disciples. Il a été transfiguré devant eux. Et ils ont vécu un temps extraordinaire. Les neuf autres disciples, eux, sont restés au pied de la montagne. Hein, ils ont géré le quotidien, comme on dit. Mais les trois autres étaient avec Jésus sur la montagne. Ils ont vécu une expérience extraordinaire. Hein, ils se sont retrouvés, ils ont vu Jésus dont le visage a été transformé, qui parlait avec son père. Il y avait là Élie et Moïse. Je me suis toujours demandé comment ils ont pu les reconnaître. Parce qu'il n'y avait pas de photos et il n'y avait pas de Snapchat à l'époque, donc je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, ils ont reconnu Élie et Moïse. Ils ont parlé ensemble. Hein, ils parlaient, et c'est le texte de Luc qui nous dit qu'ils parlaient du départ prochain de Jésus. En grec, de l'exode prochaine de Jésus. C'est-à-dire que son départ, sa mort et son retour vers son père. Et puis donc, ils ont une expérience extraordinaire où Pierre dit, hein, mais est-ce qu'on peut planter la tente et puis rester là ? Vous savez, des fois, quand on vit dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de s'en aller. On n'a pas envie d'en sortir. Hein, on est là sur la montagne, on n'a vraiment pas envie de retourner dans la plaine, parce qu'on sait que dans la plaine, il n'y a que des problèmes. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester sur la montagne. Il nous donne des temps sur la montagne, c'est indispensable. C'est le rôle de la prière et de la relation avec Dieu dans nos vies. Mais l'expérience sur la montagne ne fait que pour aller mieux travailler dans la plaine. Et quand ils redescendent, eh ben, ça n'a pas raté, ça n'a pas traîné. Ils se trouvent là, les neuf autres disciples ont essayé de libérer un enfant qui est démoniaque. Le texte nous dit lunatique, c'est-à-dire que il avait, on pourrait traduire épileptique hein, dans la terminologie un peu actuelle, hein, un enfant qui a des crises, parfois il se jette dans le feu ou dans l'eau pour le noyer, etc. Et ils ont pas pu chasser le démon. Et puis Jésus arrive hein, et il dit maintenant au nom de Jésus, en son nom, il prie et le démon part. C'est Jésus. Et les disciples sont perplexes. Ils disent, Seigneur, mais qu'est-ce qui cloche chez nous? Ça vous est arrivé de dire des fois, Seigneur, mais la parole de Dieu dit ça, j'arrive pas à le vivre. Qu'est-ce qui cloche? Parce que c'est pas Dieu qui cloche. Vous êtes d'accord avec moi? Il change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, toujours. Hein, il change pas. Donc s'il y a un problème, c'est pas au ciel, c'est vraiment sur la terre. S'il y a un problème, c'est pas chez lui, c'est vraiment chez moi. Amen. Et donc, ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et Jésus est très direct. Hein, vous savez, des fois, Jésus est très direct dans ses réponses. Dans nos vies, parfois, hein, des fois, ça nous fait même, ça fait mal. Hein. Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Et voyez-vous, il va faire un lien très étroit, donc, entre la prière et la foi. Hein, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, un grain de moutarde, donc c'était la plus petite graine qu'il connaissait à l'époque, hein, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je crois que c'est, voilà. Donc, l'incrédulité entraîne l'échec. Je ne suis pas en train de dire, attention, que quand on a des échecs, c'est forcément qu'on a été incrédule, parce que des fois, il y a d'autres raisons, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'incrédulité, en tout cas spirituellement, nous emmène dans des impasses. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Et avec beaucoup de pédagogie, il va pas les enterrer complètement, mais il va les relever pour leur faire prendre conscience de quelque chose. Donc l'incrédulité entraîne l'échec et elle nous empêche de vivre les bénédictions de Dieu. J'aimerais vous dire, hein, vous avez peut-être entendu X messages sur la prière, je ne veux pas aller ce matin sur des définitions, il y a des livres qui vous le feront mieux que moi, hein, mais je voudrais vous dire que la prière est une puissance indispensable dans la vie d'un croyant. Et ma question est très directe, vous passez combien de temps par jour avec Dieu? Le 15 décembre, j'étais en tournée d'église, j'étais chez un de mes amis, là. On se met après une journée d'enseignement, on se met dans le journal télévisé à 20h. Et il y avait une enquête sur les 16-26 ans. Il y a des 16-26 ans ici. Les 16-26 ans passent 7 heures par jour là-dessus. 7 heures par jour. Normalement, c'est le temps de sommeil. Hein. 7-8 heures. 7 heures par jour. C'est les statistiques françaises aujourd'hui. Donc, et ça, c'est les 16-26 ans. On ne nous dit pas ce que les plus de 26 ans passent. Ce n'est pas forcément moins. Hein. Okay. Donc, ça veut dire qu'on passe un temps énorme. Excusez-moi, mais à regarder des âneries, des fois. Des photos, des trucs, des vidéos qui nous passent, etc. Alors, je ne suis pas en train de condamner, cet outil est très précieux. Avec cet outil-là, grâce à WhatsApp, je peux communiquer avec des gens en mission, en travail souterrain, qui sont au fond de pays fermés en Asie centrale ou en Afrique. C'est extraordinaire, hein, je ne suis pas contre la technologie, bien au contraire. Mais toujours est-il que, comment est-ce que quelle place on donne dans nos vies à la relation avec Dieu? Ça, c'est la première chose. Quelle place, quelle priorité on donne à ces choses-là? Parce que on ne pourra entendre la voix de Dieu que si on passe du temps avec lui. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Jean 10, verset 4. Hein. Et il ajoute, il dit, elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles connaissent ma voix. Quelle voix suivons-nous? Quelle voix, V-O-I-X, écoutons-nous? Et quelle voix, V-O-I-E, suivons-nous? Amen. Et il faut le temps. Dieu nous a rachetés. Je rappelle ici que hein, on a chanté tout à l'heure des chants très, hein, très 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 précis, très poignants, je trouve, sur la valeur du sang de Jésus, sur le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est que nous avons une vie nouvelle avec lui. Comment ne pas passer du temps avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime comme ça? Comment on peut mettre ça de côté en disant oh, je prierai quand j'aurai le temps, je méditerai ma Bible quand j'aurai le temps, etc. Hein, ou on réduit ça à des recoins de notre vie, alors que c'est la priorité. Il a changé nos vies. Amen. Moi, il y a 39 ans que je suis au Seigneur. 39 ans, j'ai eu le baptême il y a 39 ans, là, le mois dernier. Hein, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a quelque chose qui est venu tout de suite. Hein, on nous enseignait ça dans l'église. Hein, c'est maintenant, Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Je dis ça, je ne veux pas rater, parce que j'avais fait trop de détours avant, je n'étais pas encore trop vieux, j'avais que 22 ans. Mais je dis, je veux réussir ma vie. Je veux entrer dans les choses que Dieu a préparées pour moi. Amen. Et donc, il a fallu que j'apprenne à discipliner ma vie pour discerner dans toutes les voies que j'entendais. Et à l'époque, le smartphone n'existait pas, la télé, il n'y avait qu'une chaîne, etc., hein, ou deux. Mais on était pas envahis par ce flot de médias, de visuels, d'audio, etc. Mais déjà, on avait plein d'autres voies dans nos oreilles. Donc, il fallait apprendre à mettre de côté les voies humaines ou les voix de ce monde, pour maintenant entendre la voix de Dieu. Ça demande du temps, de la prière, de la consécration. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans la prière, notre foi va être consolidée. Vous avez des défis dans vos vies ce matin. Vous avez des défis dans vos familles. Nous, on a eu 6 enfants. On a toujours 6 enfants, mais ils ont quitté le nid, donc on est un peu plus tranquille. Mais il faut s'occuper des petits-enfants. Et puis, on a toujours le fardeau pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais on a des défis dans nos familles, dans le monde du travail. On a des défis dans nos relations sociales. On a des défis là où on habite. Hein. Mais quels sont vos projets de vie? Qu'est-ce que Dieu a pour vous? Et c'est dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur, qu'on va pouvoir s'aligner avec les choses de Dieu. Sinon, on va aller selon nos conceptions, selon nos bonnes idées. Nos bonnes idées ne sont pas forcément celles de Dieu. Les anglophones disent « Good ideas are not necessary God ideas ». Et c'est très vrai. Et comment on va réussir à mettre ça dans nos vies en priorité? Jésus leur dit là, donc, hein, qu'il y a un problème d'incrédulité. On voit dans la Bible, je pourrais faire toute une, hein, on pourrait passer beaucoup de temps, mais regardez dans la Bible le nombre de situations que Dieu a changées par la prière. Parce que des hommes, des femmes se sont alignés avec lui dans la prière pour leur vie personnelle, mais aussi parfois pour tout un peuple, pour leur nation, pour leur famille, pour leur maison, etc. Et donc, Jésus dit, donc, si vous aviez la foi, hein, comme je vais insister là-dessus, rien ne vous serait impossible. En grec, c'est un mot qui est adunateo, ça a la même racine que dynamis, qui a donné la puissance, hein, dynamite en français. Il dit si vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, elle le ferait, et rien ne vous serait impossible. Ça veut dire que rien ne serait sans puissance dans votre vie. Rien ne serait stérile. Il y aurait toujours la conclusion, l'aboutissement que Dieu veut. Est-ce que vous me suivez encore? Hein, j'ai noté Luc 1, 37, parce que ce mot adunateo, on le trouve dans quelques expressions dans le Nouveau Testament. Dans Luc 1, 37, c'est au moment où l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Et Marie lui dit, mais attends, je ne connais pas d'homme, comment je peux être enceinte? Et l'ange lui dit, mais la puissance du Très-Haut te couvrira, hein, et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et il lui dit, parce que rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. En fait, c'est très mal traduit en français. Textuellement, ça veut dire, hein, l'ange dit, aucune parole de la part de Dieu ne restera sans effet. J'aime ça. Aucune parole venu de Dieu ne restera sans effet. Et permettez-moi, hein, je suis un peu tatillon, mais le mot parole ici en grec c'est rhéma. Ça veut dire que c'est une parole révélée. Hein, il y a deux mots en grec qui sont traduits en français par parole. Vous avez le mot logos qui est un mot général qui veut dire la parole. Hein, la parole au commencement était la parole était Dieu. Donc c'est un principe qui est la parole. Et puis vous avez un deuxième mot plus rare, le mot rhéma en grec qui veut dire une parole révélée. C'est-à-dire que c'est une parole quand vous la lisez. Elle produit quelque chose dans votre vie, elle produit la foi, elle va vous donner une direction. Hein, on parle des fois, j'ai reçu un rhéma de Dieu. Ça, c'est une expression que les charismatiques, on aime bien. Hein, mais moi, j'aime bien cette expression. Parce que j'ai reçu une parole de Dieu, et cette parole, elle a fait une décision dans ma vie. Elle a donné un élan de foi qui m'a permis d'aller. Vous me suivez? À un moment, Jésus a retrouvé ses disciples, ceux qui allaient devenir ses disciples, au bord de l'eau. Il est dit qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Et Pierre, qui connaissait bien le boulot, dit, mais on a bossé toute la nuit, on est fatigué, zéro, rien. Jésus leur dit, retournez. Et il leur dit, avancez en pleine eau, jetez vos filets. Raisonnablement, c'était absurde. Moi, je ne connais rien à la pêche, mais on ne va pas pêcher au petit matin à l'aube, on pêche la nuit. Et Pierre lui dit, Hein? Pierre lui dit cette parole étonnante, il dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me donnes, ce que tu me dis, je suis complètement épuisé, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Oui, c'est ça un réma, c'est une parole à un moment qui vient frapper votre cœur, qui vient. C'est une parole qui sort de la Bible, c'est pas une parole farfelue qui vient de je sais pas où. Hein, non. Non, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Hein, et Pierre dit, sur ta parole je jetterai le filet. Et Pierre est allé, il est dit que le filet était plein à craquer. C'était complètement contre les lois de la nature. C'était contre le bon sens du pêcheur moyen. C'était contre tout ce qu'il avait appris à l'école de pêche. Mais n'empêche qu'il y a eu un miracle. N'empêche. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu, dans la prière, va nous révéler des choses. Ça peut être, je vais en parler tout à l'heure, ça peut être dans des temps de prière collective. Parce qu'on va voir qu'il y a une prière que Dieu honore particulièrement. C'est la prière quand le peuple de Dieu est uni. Mais c'est aussi, mais la prière, je vais vous dire quelque chose, la prière, quand on est ensemble, ne peut être bénie et fructueuse que si d'abord on a chacun une vie de prière. Une vie, encore une fois, de relation avec le Père. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, dans Josué 1,8, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il parlait de la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Pour que tu agisses selon tout ce qui est écrit. Notez bien, médite-le jour et nuit pour que tu agisses selon tout ce qui est écrit. Et la conclusion, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Waouh ! C'est alors que tu réussiras. Josué 1,8, apprenez-le par cœur. Oui, moi, je l'ai appris il y a 35 ans. Il est toujours là. Il est toujours là. Médite-le. En grec, en hébreu de l'Ancien Testament, c'est écrit « Murmure-le jour et nuit ». Je ne sais pas si certains sont allés à Jérusalem ou en Israël, mais quand vous voyez les Juifs qui lisent la Bible sur le mur, devant le mur ou ailleurs, les Juifs lisent toujours la Bible à haute voix. Ils la prononcent. C'est normal. C'est comme ça, elle rentre par deux yeux et par deux oreilles. Quatre trous au lieu de deux si on lit à voix basse. Et donc, ils lisent, ils murmurent la parole. Parce que quand on la murmure, on l'ingère, on s'en remplit. Et c'est cette parole qui fait la décision. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Vous voulez du succès ? C'est la parole de foi qui va transformer, qui va vous donner la direction de Dieu, qui va vous aligner. Ce matin, voyez-vous, pendant le temps de prière, là, il y a deux choses qui sont venues dans ma tête. Il y a des personnes ici, qui sont venues dans mon cœur. Il y a quelques personnes ici. J'ai vu une image. J'ai vu des coureurs dans des starting blocks. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a des personnes ici, peut-être des couples. C'est comme si vous êtes dans des starting blocks. Vous attendez le coup de feu pour partir, le starter, ouais. Et j'aimerais vous dire, Dieu veut allumer le starter dans votre vie. Mais il vous faut une parole. Il vous faut cette parole, Réma. Cette parole qui va vous donner une direction. Amen. Et on priera à la fin pour ça. Je pense qu'il y a des personnes ici, vous êtes prêtes. Dieu a travaillé dans vos cœurs. Il y a des choses qui sont pour vous, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, pour son service. Mais il faut qu'il y ait le top départ et vous allez vous envoler de vos starting blocks. Il y a des chrétiens qui restent toute leur vie dans des starting blocks. Ils sont prêts, ils ont tout fait, ils ont le short, ils ont fait la muscu, tout, ils sont prêts. Mais ils décollent jamais. Amen. Dieu veut ça pour son peuple. Donc, rien ne vous serait impossible, dit Jésus. Donc, Jésus enseigne aussi sur la prière et la foi et le jeûne. Je ne veux pas insister là-dessus, mais le verset 17 nous dit à la fin, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est très drôle parce que nos traductions ont dit cette sorte de démon. Dans toutes les traductions, c'est écrit. Alors que dans le grec, c'est dit simplement cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Regardez, c'est écrit comme ça. Donc le mot cette sorte, il peut s'attribuer soit au démon, soit à la foi, selon le texte d'avant. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est bon. Cette sorte de foi ne peut sortir que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que votre foi est nourrie à certains moments par des temps de prière et de jeûne. Et je sais que c'est compliqué de jeûner. Surtout quand on a un rythme de vie rapide, ça veut dire qu'à certains moments, il faut se mettre à part. Il faut peut-être prendre sur nos temps de vacances, dire « Seigneur, là je prends 3 jours, mais je voudrais vraiment que tu me parles. Je voudrais vraiment que tu confirmes ou que tu donnes une direction dans ma vie. » Amen. Et effectivement aussi, il y a des démons, j'ose le dire, il y a des démons qui sortent par la prière et par le jeûne. Il y a des démons, la prière ne suffit pas. Il faut parfois du jeûne d'église, pour que des gens soient libres, ou des jeûnes hein, de personnes. Je n'insiste pas là-dessus, mais tout ça pour dire que Dieu a donné une arme puissante. Et on voit donc la puissance de Dieu dans les Écritures. Je vous donne quelques exemples. Dans Acte 12, Pierre était gardé en prison. Il est dit au verset 5, « Sans relâche, la prière de l'Église montait vers Dieu pour lui. » La prière du peuple de Dieu entraîne des délivrances, des interventions surnaturelles de Dieu dans la vie du peuple de Dieu, des dirigeants, etc. Est-ce que nous vivons ces choses-là? Est-ce que nous y croyons? Amen. Il est parlé ici, Paul parle d'un homme qui s'appelle Épaphras. Regardez ce qu'il est dit, Colossiens 4, 12. Épaphras qui est des vôtres, donc il écrit aux chrétiens de Colosse, et il leur dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça, j'aime ce genre de prière. Vous avez là un homme de Dieu qui est loin de son église, puisque Paul est en prison à ce moment-là, à Rome, hein, mais il envoie cette lettre aux Colossiens, et Epaphras donc était quelqu'un qui servait dans l'église de Colosse, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà un autre aspect de la prière. Le mot combattre ici, c'est agonizomai. En français, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire, il est entré en lutte. C'était un mot des jeux sportifs, hein, des jeux olympiques de l'époque. Donc, ça veut dire lutter avec des adversaires, combattre avec zèle, s'efforcer d'obtenir quelque chose. Voilà ce que fait cet homme dans la prière pour ses frères et sœurs qui sont là-bas, loin. Il n'est pas en train de papoter sur l'église. Il est à genoux, en train de prier pour que les gens de son église, pour que les gens de son église, parfaits, pleinement persuadés, persistent dans une entière soumission à Dieu. Amen. La prière, est-ce que nous avons cet esprit de combat dans la prière? Ça fait partie de l'esprit de prière. Excusez-moi, mais on est dans une société occidentale qui nous ramollit tellement. J'ai l'habitude, bon, j'ai été formé en Afrique, hein, donc j'ai vu comment on prie en Afrique. Je vais régulièrement en Inde depuis 6 ans, là j'y retourne au mois d'avril, dans le nord de l'Inde, où il y a un mouvement d'implantation d'églises extraordinaire. 27 000 églises en 20 ans. Alors ce n'est pas des méga churches, c'est des églises de village, dans les petites villes, etc. Mais je vois la ferveur, la puissance, comment les gens... J'ai été touché, j'y vais, la deuxième fois où j'y suis allé, les gens nous disent, mais en Inde, hein, dans des endroits perdus, je ne sais même pas si les gens sont allés à l'école, s'ils ont une notion quelconque de la géographie, ils nous disent, mais le vendredi, on prend un jour de jeûne complet dans notre mouvement pour la France et l'Europe. Pour que Dieu touche vos pays. Parce que vous nous bénissez en envoyant des équipes, en envoyant des fonds aussi pour permettre le développement d'écoles chrétiennes, de l'œuvre de Dieu là-bas, de formation de leaders, etc. Et il dit, mais nous en retour, on prie pour vous et on jeûne pour vous tous les vendredis. Ça fait chaque année les 52 vendredis de l'année. On était dans un centre où ils forment une petite école biblique, là où ils forment les jeunes pour aller implanter les églises. Tous les vendredis, effectivement, ils jeûnent et prient. Ils ne prient pas que pour nous, mais il y a un temps pour la France, pour l'Europe, etc. Je dis, mais nous, on ne prie jamais pour l'Inde. Vous voyez? Mais comment les choses se font et comment l'œuvre de Dieu s'accomplit? Et donc, ce qui est important, et je voudrais aller sur cette partie-là, je saute ici, c'est la puissance dans l'unité du peuple de Dieu. Je vais un cran plus loin. Là, je vous ai parlé surtout de prière personnelle. Mais combien j'ai vu dans ma vie, hein, combien j'ai vu que Dieu conduit les pas de notre vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans les étapes, hein, puisque vous voyez, il y a 6 mois, on a reçu une nouvelle direction, etc. Mais on voit comment Dieu prépare les choses d'avance. Et pour rien au monde, je sais qu'on peut échanger ces choses-là. Mais ça demande que nous développions, j'insiste là-dessus, la relation avec le Père, la relation avec Jésus, la relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord. Et actuellement, celui qui travaille sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont là-haut, dans le ciel. Hein, et l'agent de la divinité, c'est le Saint-Esprit. Combien on a besoin de le connaître? Paul parle de la communication du Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13-13. Hein, j'aime bien dire, l'Esprit de Dieu, c'est le ministre de la communication de la Trinité. Et c'est lui, puisqu'il vit dans nos cœurs, c'est lui qui nous révèle la parole de Dieu. La parole et l'Esprit vont ensemble. Et c'est lui, l'Esprit, hein, qui à certains moments va prendre certaines paroles de l'Écriture, les faire jaillir dans nos cœurs pour nous donner la pensée de Dieu. Il va aussi de temps en temps utiliser une prophétie. Un frère ou une sœur qui va lui donner un conseil, hein, une parole prophétique de direction. Mais je rappelle que la parole prophétique n'est qu'une confirmation de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Parce que permettez-moi encore de dire ça pour parfois corriger certaines choses. Dans l'ancienne alliance, le commun des croyants n'avait pas accès au lieu très saint, ni même au lieu saint. Donc il n'avait pas accès à la présence de Dieu. Quand un Israélite voulait savoir la volonté de Dieu, il fallait aller voir soit le prophète, soit le sacrificateur. Dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus, vous et moi, l'habitation du Saint-Esprit. Plus besoin d'aller chercher dans un lieu précis ou auprès d'un endroit précis, il est en nous. Et j'aimerais vous dire, l'endroit majeur, principal par où le Saint-Esprit vous parle, c'est de l'intérieur. Apprenez à être sensible à sa voix. Apprenez à discerner. Hein, j'aime encore bien donner cette image-là. Quand on a eu des petits-enfants qui ont grandi, vous savez, quand ils commencent à marcher, hein, il y a des parents, vous êtes peut-être dans la phase, là. Vous êtes toujours là en train de dire, touche pas ça. Pas là. Non, là, tu vas pas. Là, non, tu touches. Là, tu vas casser, arrête. Là, tu vas te brûler, touche pas. Vous êtes toujours en train de donner des ordres. Et j'ai remarqué au début de notre conversion, souvent Dieu nous parle de façon très directe, comme ça, soit parce qu'on découvre la Bible, soit il nous décape très franchement, hein, et puis il va nous donner des paroles très, très, très directes d'une manière ou d'une autre. Vous avez remarqué, les enfants, quand ils arrivent vers 8, 9 ans, ils vont faire une bêtise et ils regardent papa ou maman. Et juste en regard, ils ont compris. Vous n'avez pas besoin de dire « touche pas » ou « n'y va pas ». Ils savent ce que vous pensez. Après, libre à eux de décider. Okay. Mais avec Dieu, c'est pareil. Plus tu le connais, moins il a besoin de faire de bruit pour te parler. Plus il va te suffire de croiser ses yeux d'amour et tu vas savoir s'il approuve ou pas. « Seigneur, est-ce que je dois déménager ? Est-ce qu'on doit aller habiter là ?» Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que, hein, il y a nos enfants, il y a notre lieu de travail, il y a la qualité de vie, il y a tout ça. Seigneur, mais il y a aussi ton service. Est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller? Tu prends du temps devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Et si tu as l'habitude, si tu es un familier du Seigneur, tes yeux vont croiser les siens. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et j'aimerais que vous avanciez là-dedans, parce qu'il y a trop de chrétiens égarés. Il y a trop de chrétiens qui ne savent pas la direction de leur vie. Il y a trop de chrétiens qui, dans l'église, sont là, ils ne savent pas leur don. Ils ne savent pas à quoi ils servent. Mais c'est triste, frères et sœurs. Nous sommes tous membres d'un corps, et je vais y arriver là. Est-ce que vous avez vu un membre qui ne sert à rien? Même le bout de votre ongle, vous en avez besoin pour vous gratter l'oreille. Pourtant, on pourrait s'en passer. Ou pour faire autre chose, hein. Chaque membre du corps a une fonction, il a des dons en fonction de ce qu'il doit faire. Le foie a des capacités particulières, ce n'est pas celle de l'œil. Et l'œil est au bon endroit, si l'œil était à la place du foie, vous ne verriez pas grand-chose. Mais Dieu a mis les choses à la bonne place. Nous, on veut organiser. 1 Corinthiens 12 nous dit, à partir du verset, après le verset 15, il nous dit, Dieu a placé dans l'Église les membres. Ce n'est pas nous. J'aimerais vous dire, si vous êtes membre de cette communauté, c'est vous qui choisissez. Mais si Dieu vous met là, c'est parce que vous avez une vocation, un appel et une fonction qui correspond à cette église. Amen. Il y a d'autres églises ailleurs qui ont d'autres fonctions. C'est ça la diversité du corps. Hein, c'est que dans telle église, elle a reçu tel appel, telle vision, elle travaille de telle manière. L'église à côté peut être de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout de la ville. Elle a une autre fonction, elle a une autre vision. Notre but, c'est de travailler en pleine complémentarité, en pleine communion. Mais chacun fait ce que Dieu lui demande. Et votre appel personnel, votre appel familial s'inscrit dans l'appel de votre église. Sinon, il y a du décalage. Et si vous êtes là, si Dieu vous a convaincu d'être dans cette assemblée, c'est parce que vous avez une fonction à accomplir. Alors si vous êtes encore dans le starting block, il faut vous lever. C'est le coup de pétard ce matin. Qui est en l'air, hein, qui n'est pas vers vous. Pour dire, avance, mets-toi en route, Tu vas dire, j'ai vu tellement de chrétiens. Vous savez, je suis revenu d'Afrique, je vais dans une église, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Je vais dans une église, je retrouve là une dame qui avait 40 ans à peu près, seule, que j'avais connue dans notre église de Grenoble au début de notre conversion. Je lui dis, mais je suis content de te voir, je ne savais pas que tu étais là. Elle dit, ouais, j'ai été mutée, etc. Et puis je la vois tout d'un coup, elle était là, elle appelle, puis elle se met à... Je voyais qu'elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit, tu sais... J'ai essayé de servir, cette femme, elle était institutrice, enseignante, je ne sais plus le nom, mais elle avait un don pour le théâtre. Elle aimait ça. Elle dit, tu sais, dans l'église, j'ai essayé d'amener mes choses, j'ai essayé là, ça ne passe pas. Elle me dit, aujourd'hui, je suis obligé d'aller dans le monde, et là, je m'éclate. C'est-à-dire que mes dons, elle me faisait passer le message, alors je ne connais pas son histoire personnelle après, hein, mais elle me dit, finalement, pour vivre et exprimer les dons que Dieu m'a donnés, je n'ai pas trouvé dans l'église. Je suis obligé d'aller m'éclater là-bas. Je vais au culte le dimanche, et puis basta. Le reste, je vis ailleurs. Mais c'était triste. Mais d'un triste. Je veux dire, l'église, on n'est pas en mesure d'offrir aux gens la manière d'exprimer leurs dons. Ils sont obligés de trouver... Alors, je ne vous dis pas, des fois, Dieu demande à certains d'aller exprimer leurs dons dans le social ou dans les arts, dehors. Ce n'est pas du tout mauvais, c'est leur place. Mais ce qui m'attriste, c'est que l'Église, on ne soit pas capable, et qu'on ne soit pas en mesure de valoriser ces choses que Dieu donne, et que finalement, il faut que les gens aillent à l'extérieur pour trouver le moyen d'exprimer des dons que Dieu a donnés. C'est juste un exemple. Mais Dieu a une fonction et des dons pour chacun d'entre vous. Et ils sont au service, hein, ils ne sont pas pour vous, ils sont au service d'abord du Seigneur, et ensuite de la communauté, pour que ça puisse bénir l'extérieur. J'ai rappelé hier aux responsables que le but de l'Église, ce n'est jamais pour elle-même, c'est pour bénir le monde. Dieu nous a laissés pour bénir ceux qui ne sont pas encore à lui et pour les attirer vers lui. Amen. Amen. Ça, c'est le but de l'Église. Hein, ce n'est pas pour qu'on soit un bocal où on change de sens des poissons rouges tous les deux ans. Non, non. Nous sommes là pour toucher l'extérieur, pour multiplier. J'aimerais vous dire encore une chose. Dieu ne se satisfait jamais du statu quo. Dieu veut qu'on multiplie. Dieu veut qu'on fructifie. Dieu veut qu'on porte du fruit à tout âge et encore et encore. Et qu'on entre dans des sphères nouvelles. Hein, on peut dire à un moment, ah, la retraite est en vue, on a quand même bien bossé pour le Seigneur, on va s'arrêter. Dieu a encore des choses pour toi devant. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Et j'aimerais vraiment te transmettre ça. Et donc, la puissance de la prière, je vais terminer avec ça. On connaît tous ces textes-là. Matthieu 18. Je dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, en grec c'est le mot symphoneo. Pareil, ça a donné symphonie en français. Donc si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On connaît tous ce texte. Vous permettez, je vais vous lire quelque chose. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler des Moraves et du réveil Morave 1727? Je pense que les aînés... je vois que beaucoup, vous avez la bouche grande ouverte, donc ça ne doit pas trop vous parler. Nous sommes en 1727, donc 200 ans après la Réforme. En Allemagne, donc dans ce qui s'appelle à l'époque la Prusse, en Saxe, tout près de la République tchèque, vous avez un endroit qui s'appelle Herrnhut, donc c'est la garde du Seigneur. Vous avez un homme qui s'appelle le comte Zinzendorf. Zinzendorf, c'est facile. Hein, voilà. Cet homme-là, il a rencontré le Seigneur à l'âge de 4 ans, sa première expérience. Et puis, à l'âge de... Il était jeune, c'était un noble, il voyageait dans l'Europe. À un moment, il arrive à Düsseldorf dans un musée et il voit un tableau sur la crucifixion du Christ. Et dessous, c'était écrit en latin, « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que fais-tu pour moi ?» À 19-20 ans. Ça bouleverse sa vie. Il rentre chez lui, donc en Moravie, c'est une province qui est là-bas au fond, au bout de l'Allemagne. Et puis, là, il rassemble pendant 7 ans, il rassemble, j'allais dire, un tas de gens qui étaient issus du protestantisme, de la réforme et des mécontents. Ils se retrouvaient ni chez les baptistes, ni chez les réformés, ni chez les luthériens, ni chez les calvinistes, bref. Et ils ont fait un village, ils étaient 200, à peu près 200 personnes, une église de 200 personnes dans son château. Hein. C'était un noble, il avait de quoi, il avait du terrain, il a rassemblé ces gens-là. Et écoutez bien, pendant 7 ans, donc de 1720 à 1727, la communauté était déchirée. Évidemment, les gens venaient de toute l'Europe avec des arrière-plans complètement différents. Et le comte Zinzendorf plaide pour l'unité, l'amour et la repentance. Il connaît la puissance de la prière, tandis qu'il a été étudiant dans son adolescence, il a ouvert des groupes de prière. Et puis donc, il va à Düsseldorf, il voit ce tableau-là du Christ en croix, et toi, que fais-tu pour moi ? Il revient, et puis, pendant l'année 1727, il se met à visiter tous les membres adultes de la communauté qui étaient profondément divisés. Et il rédige un engagement. Il invite à chacun à chercher Dieu et à mettre l'accent sur les points sur lesquels ils sont d'accord plutôt que sur les points différence. Le 12 mai 1727, tous signent cet engagement. Ils consacrent tout à nouveau leur vie à Dieu. Tenez-vous bien, le 12 mai 1727. Je passe les détails, mais j'arrive au mois d'août, donc 3 mois plus tard. Il est dit, le dimanche 10 août, au culte, vers midi, le pasteur est submergé par la puissance du Saint-Esprit. Il s'écroule sur le sol, de même que toute la congrégation. Et tous continuent, c'était le culte à midi, hein. Tous continuent à prier jusqu'à midi, jusqu'à minuit. Ils chantent et ils pleurent. Le 26 août, quelques jours plus tard, 24 hommes, dans leur service du soir, 24 hommes et 24 femmes décident de continuer à prier par tranche d'une heure, donc sur 24 heures, en continu. Ainsi commence la réunion de prière la plus longue de l'histoire. Elle a duré 100 ans. C'est-à-dire que dans cet endroit, pendant 100 ans, des gens en relais ont prié 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par an. La plus grande réunion de prière de l'histoire. Il est évident que ceux qui étaient au bout de 100 ans n'étaient pas les mêmes que ceux du début. Hein. Effectivement. Les enfants sont également touchés et ils suivent le même plan. Les enfants ont été impliqués dans le même plan. Hein. Les adultes qui entendent les requêtes des enfants sont profondément bouleversés. Cette rencontre de prière étonnante et unique commence en 1727. Elle va continuer pendant 100 ans. C'était 170 ans avant le réveil pentecôtiste. Hein, cette chose-là. Il est dit que de ce village, dans les 20 années qui ont suivi, plus de 100 missionnaires ont quitté cet endroit. Les Moraves sont allés d'abord en Europe du Nord, chez les Lapons. Ils sont partis ensuite au Groenland, les pauvres. Il fait très froid. Ils sont partis en Amérique du Nord jusqu'au Canada. Ils ont fait le tour de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. En 2000 ou 2001, Nelson Mandela était encore président. Hein. Il a remercié, pour la fête des 200 ans des missions moraves, il a remercié ces hommes-là qui étaient partis, qui ont institué en Afrique du Sud, à l'époque, les premières écoles, les premiers hôpitaux, les premiers dispensaires. Voilà l'œuvre missionnaire qui s'est développée. Et tout ça, pourquoi je vous cite ça ? Parce qu'une communauté qui était tous azimuts, on va dire, de gens de briques et de brocs qui arrivaient de toute l'Europe, à un moment, ils ont fait un pas décisif. Et c'était l'initiative de Zinzendorf. Il est allé les voir un par un. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça à faire semblant de prier ou faire jouer à l'église, il faut qu'on soit unis. Il ne savait pas ce qui allait se passer derrière. On dit que cette expérience des Moraves, donc ça a été l'avant-garde de la Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte. Ils ont vécu des choses dans l'esprit que même nous aujourd'hui, on n'a pas forcément vécu. Hein, ils ne connaissaient rien des dons de l'esprit, etc. Mais ils ont reçu spontanément une visitation puissante qui a débouché sur un mouvement missionnaire. Parce qu'une visitation du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous faire du bien entre chrétiens. C'est toujours pour aller. Et pour amener d'autres gens au Seigneur. Et tout ça, c'est parti de la prière de l'unité. C'était en 1727, juste pour l'anecdote, en 1736, deux prédicateurs anglais voyageaient entre l'Angleterre et les États-Unis sur un bateau. C'était des prédicateurs anglicans de l'Église officielle. Et ils se sont retrouvés avec un groupe de Moraves. Et ils étaient complètement étonnés de voir l'esprit de service de ces gens. Puis à un moment, le bateau a traversé une tempête. Et tous les gens, y compris nos deux prédicateurs anglicans, ils étaient dans l'angoisse, ils ont dit, mais on va mourir. Et les Moraves, avec leurs enfants, chantaient des cantiques. Ils ont dit, mais ils sont fous, ces gens. Et ils ont traversé l'orage, ils sont arrivés de l'autre côté. Et ils ont demandé, ces deux prédicateurs ont demandé à ces Moraves, mais vous n'avez pas eu peur pendant ça? Ils disent, mais non, on n'a pas peur. Puis de toute façon, même si le bateau coule, on sait où on va. Les deux prédicateurs ne savaient pas. Les deux prédicateurs, c'était les frères Wesley, John et Charles. Et ils étaient prédicateurs de l'église officielle. À l'arrivée à New York, ils ont couru dans une église morave et ils se sont convertis là-bas. Et ça a bouleversé la vie de Wesley, juste pour l'anecdote. Le témoignage et la puissance de la prière de ces gens-là. Est-ce que nous sommes connus pour des gens qui bouleversons les circonstances par la puissance de notre prière et de nos actions? Comment sommes-nous connus? Vous savez que les premiers disciples, quand ils sont arrivés à un moment à Thessalonique, ils ont dit « Waouh !» Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Ils ont dit « Waouh ! Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous !» Comment les Thessaloniciens pouvaient savoir ça? C'était simplement l'effet de la présence des chrétiens dans un monde qui était profondément idolâtre. Vous savez, notre monde ressemble curieusement au monde romain. Des idoles partout. Elles n'ont pas les mêmes noms, mais c'est le même monde. À Antioche, il est dit que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ce n'est pas eux qui ont dit « Yéo, c'est nous les chrétiens !» C'est les gens du dehors qui ont dit « Mais c'est Christ, la fanatique, c'est des petits Christ !» Les chrétiens, ils se sont moqués d'eux. Le terme est resté, c'est notre terme aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une différence qui a été faite dans la vie de prière de ces personnes, dans la vie de prière des communautés. Je pense que si nous prenions au sérieux les promesses de Jésus, il y a des choses qui changeraient. Amen. Vous avez remarqué, je dis quand deux d'entre vous s'accordent, quand un père et une mère s'accordent pour leurs enfants, quand des grands-parents s'accordent pour leurs petits-enfants, quand deux frères commencent à prier ensemble pour la direction de leur vie, pour peut-être pour leur foyer, pour leur avenir, leurs études, leur métier. Mais il y a une différence qui se produit, mes amis. Alors, imaginez à deux, imaginez maintenant à 100. La puissance qui est là. Imaginez maintenant un lieu, pourquoi pas un stade, avec toutes les églises de la région où les gens prient ensemble. Imaginez la puissance que ça donne. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Amen. Le partenariat, ça marche. Je vais m'arrêter là. Ah, si, si, encore ça. Vous avez 12 fois dans le Nouveau Testament l'expression d'un commun accord. C'est l'expression qui est là-haut, homotoumadon. D'un seul esprit, d'un commun accord avec la même passion. Il est dit dans le acte 1, d'un commun accord, ils priaient ensemble. Le matin de la Pentecôte, acte 2, ils étaient ensemble dans le même lieu, d'un commun accord. Quelque temps plus tard, il y a eu la persécution contre les premiers chrétiens, acte 4, à partir du verset 24, il est dit, tous les gens de Jérusalem, les croyants se sont réunis, d'un commun accord, ils ont fait monter la prière vers Dieu, etc. D'un commun accord. Qu'est-ce que nous allons demander ce matin d'un commun accord? Sur quoi allons-nous être un et d'accord? Toute la différence, elle est là. Et je voudrais vous inviter ce matin. Je connais votre église de loin, c'est vrai qu'on a discuté hier, mais je voudrais vraiment vous lancer le défi. Votre église, elle a des années, votre église, elle a grandi, votre église, elle est belle, j'ose le dire. Je ne connais pas tout. Ça ne veut pas dire qu'elle est belle parce qu'il n'y a pas de problème. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Même, il suffit que j'arrive et que vous ayez beaucoup de problèmes. Mais chacun de nous, on a nos vies, nos difficultés, nos défis. Mais si Dieu a pu bouleverser le monde avec 12 disciples qui étaient des pêcheurs de Galilée, vous ne pensez pas qu'il peut bouleverser Rennes? Il y a quelques convaincus, amen. Mais bien-aimés, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Qu'est-ce qu'on va mettre? Quelle va être la mesure de nos prières? D'abord personnellement, en couple. J'invite les familles chrétiennes, mais priez ensemble. Parents avec enfants, couple ensemble, c'est compliqué des fois. Nous, on a mis ça comme jalon dans notre vie, mais il a fallu se battre au début. Puis alors, quand on a eu 4 gamins, il y avait toujours un bébé qui avait envie du biberon ou du sein, etc., c'était compliqué. Mais il y a des saisons où c'est plus simple, je ne vous le cache pas, il y a des saisons où c'est moins simple. Mais toujours mettre ça, planter. J'aimerais dire, je bénis le Seigneur pour la structure d'école du dimanche ou de culte junior que vous avez, mais je rappelle aux parents que c'est vous les premiers responsables de l'éducation spirituelle de vos enfants. Surtout que dans, à l'école aujourd'hui, on ne leur raconte pas vraiment l'évangile. Et de moins en moins. On a une telle responsabilité. Mais n'ayons pas peur. La foi nous donne de l'assurance. La prière de la foi sauvera le malade, a dit Jésus, hein, Jacques, etc. La prière fondée sur la foi. Ce matin, hein, quelle va être la mesure? Quelles sont nos ambitions dans la prière? Et j'ai écrit, quelle montagne as-tu à faire bouger ce matin? La foi engendre le miracle. La foi et la prière engendrent une parole de vie. Hein, ça a été dit tout à l'heure dans le psaume, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi va engendrer des paroles d'autorité, des paroles d'accomplissement. Et j'aimerais qu'on s'incline quelques instants dans la prière. Je crois que ce matin, plusieurs, il y a vraiment une, comment dire, un retour ou un sens à aller dans la priorité de Dieu. Dans la relation avec lui. Je ne vais pas vous demander de vous lever, de prendre un engagement, etc. Mais ce n'est pas l'objectif. Mais je crois que Dieu te parle ce matin. Quelle relation développes-tu avec le Seigneur? Combien de temps tu lui donnes par jour? Ou par semaine? Je sais que les emplois du temps sont des fois compliqués, mais est-ce que tu as ce qu'on appelle une discipline spirituelle? Je sais que le mot fait peur à certains aujourd'hui, mais est-ce que tu as une certaine discipline dans ta vie pour avoir du temps dans la parole de Dieu, pour avoir du temps pour parler à Dieu, mais aussi du temps pour l'écouter? Et pendant qu'on est là, je prie. Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de poser cette priorité. Vous avez besoin d'entendre la voix du bon berger. Et non seulement à l'entendre, mais à vous familiariser avec elle. Pour qu'à chaque moment, dans chaque besoin, vous puissiez avoir recours à lui, sans crainte, sans être pris de vitesse. Seigneur, on est là devant toi, on est tous dans les mêmes défis, dans un monde qui va vite, dans un monde où il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses qui remplissent nos agendas. Et nous venons devant toi ce matin. Nous voulons être un peuple de prière, un peuple de relations avec toi. Un peuple qui connaît ta voix. Dieu réveille ce matin, je crois aussi chez certaines personnes, il éveille ou il réveille un esprit de prière. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais il y a un esprit de prière qui est lié à la foi. Avec un peuple qui met l'accent sur une prière vivante. Et encore une fois, ça commence chez nous, dans notre vie personnelle. Et ensuite, ça se traduit communautairement. Pour des rencontres de prière où on est conscient que Dieu est là, que nos fardeaux ne sont pas seulement les nôtres, mais ceux que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut, je voudrais inviter ceux qui le veulent simplement, je voudrais qu'on prie quelques instants encore ensemble, si vous me permettez. Est-ce qu'on peut, ceux qui veulent se lever, et tout simplement tendre nos mains vers Dieu. Jésus a dit hein, que si nous nous accordons ensemble, il est là au milieu de nous. Et si nous nous accordons pour demander une chose quelconque, elle nous sera rendue, hein, elle nous sera accordée. Je vous dis que si deux s'accordent sur la terre, c'est bien ici, pour demander une chose quelconque au Père, elle lui sera accordée. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voudrais vous inviter chacun à lever votre voix. Ce matin, apportez votre cœur à Dieu. Il y a peut-être des demandes précises. Il y a peut-être une louange, une action de grâce, quelque chose. Mais est-ce qu'on peut ouvrir notre voix, lever notre voix, ouvrir notre bouche ensemble et lui parler? Et lui parler. Il y a des personnes ici, vous êtes dans des impasses sur certains domaines. Peut-être dans votre couple, peut-être dans votre situation administrative, dans vos études. C'est le moment, apportez cela. Apportez cela au Seigneur.